Histoire de la psychanalyse par Jacques Alain Miller. Aujourd'hui, chacun est une exception.
Est-ce que je vous explique la psychanalyse? J'essaye plutôt de vous l'évoquer, de vous rendre sensible ce que ça peut être d'être en analyse. Et sans doute de vous le rendre attrayant. Mais pas trop tout de même. La psychanalyse, aujourd'hui, disons que c'est un jeu. On ne s'en aperçoit pas pour les meilleures raisons du monde, parce que c'est un jeu que l'on joue en raison de symptômes qui font souffrir. Mais c'est un jeu que Freud a appris à l'humanité à jouer. Un jeu nouveau avec la langue. Il a appris à l'humanité à parler sans se préoccuper du bon sens et de l'usage reçu de la langue et d'ailleurs pas non plus des bonnes manières. Et on constate que dès que l'on prend de la distance avec le discours courant, il y a tout de suite des effets thérapeutiques. Il se produit un apaisement, une tranquillisation. Mais aussi, une fois qu'on a commencé à jouer à ce jeu, on n'a pas forcément envie qu'il s'arrête. C'est un jeu très attrayant. On veut continuer à jouer. Et il arrive même que l'on soit prêt à souffrir encore un petit peu pour avoir une bonne raison de continuer. Ça s'entretient soi-même. Les critiques de la psychanalyse ne manquent pas de le faire valoir. Quand on est sur le point d'aller mieux, il arrive que, paradoxalement, on aille plus mal. Parce qu'il y a précisément, dans le jeu analytique lui-même, un principe par lequel il s'entretient. Et ce ressort, c'est qu'on jouit à parler d'abord. On jouit à parler en pure perte. On jouit de dire dinosaure. C'est la jouissance du blablabla. Alors, mettre le bon sens entre parenthèses pour accéder à la jouissance du blablabla, pour certaines personnes, c'est très difficile. Les personnes d'extrême bon sens, d'extrême décence, ont parfois beaucoup de difficultés à mettre le bon sens entre parenthèses. Mais c'est à ça que tend l'exercice. Laisser l'initiative aux mots, les laisser faire l'amour, laisser les signifiants, la matière du langage, les sons s'associer entre eux. Alors, dans une analyse, il est recommandé, et d'ailleurs c'est un effet qui est inévitable, que se relâchent les liens du son et du sens. Les liens du mot, de la phrase et de la signification. Les liens du signifiant et du signifié. C'est dans ça que consiste l'opération analytique. Hein. Relâcher les liens établis entre signifiant et signifié. Alors, ces liens sont établis par la routine au sein d'une communauté de langage. La communauté où l'on s'entend les uns les autres. Il y a la grande communauté de langue et puis il y a toute une hiérarchie de communautés jusque au copain, à la copine, enfin, qui vous comprend. Mais on se comprend justement pour faire taire la rumeur qui monte de la langue elle-même, que ce que Barthes appelait le bruissement de la langue. Donc l'analyste, lui, il est là pour aider à ce que se relâchent les liens établis entre le signifiant et le signifié. Alors, ça veut dire que il est là pour faire l'âne. Il est là pour ne pas comprendre. Ce qui veut dire exactement pour freiner le passage du signifiant au signifié, pour le ralentir, pour mettre dans ce que vous dites des points d'interrogation, des X, comme dans les formules mathématiques où ça désigne une inconnue. L'analyse dit en quelque sorte à l'analysant, enfin pour moi c'est du chinois. Et c'est par là que peut s'ouvrir l'espace de l'analyse elle-même. Et il en résulte que pour celui qui parle, ce qu'il disait, ce qu'il dit devient du chinois. Pour lui-même, ça devient une énigme. Une énigme, bon, c'est quoi? Ça veut dire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et d'ailleurs, on va en analyse quand on fait la rencontre d'une énigme. Si vous n'avez jamais rencontré d'énigme, de perplexité, il n'y a aucune raison d'aller voir un psychanalyste. Alors le psychanalyste, ce qu'il fait avec ça est très différent de ce que font la plupart des psys. La plupart des psys s'attachent à vous réinsérer le plus vite possible dans le discours courant. L'occasion en vous expliquant les grandes significations qui font tenir le monde. Et en vous aidant à retrouver la norme. Dans la psychanalyse, vous êtes une exception. Vous êtes une exception, si je puis dire, culturelle, à vous tout seul. Et la psychanalyse est là pour cultiver vous aider à cultiver votre exception culturelle. Et par l'analyse, bien des choses qui vous paraissaient aller de soi deviennent énigmatiques. Vous commencez à vous interroger sur ce qui vous était le plus familier et qui vous devient étrange. Vous prenez une distance, enfin que vous le vouliez ou non. Le seul fait de parler en analyse met en question les mots de la tribu. Votre analyse les fait trembler, ces mots, les fait vaciller, et avec eux, tout ce qu'on appelle les valeurs, les idéaux, qui nous permettent de vivre ensemble, vaille que vaille. Dieu, la patrie, l'Europe, le bien, la vérité, la beauté, et même la splendeur du vrai, comme quelqu'un disait. C'est pas que l'analyste fasse des objections, il ne contredit pas, il ne polémique pas, mais du seul fait de parler en analyse, les grands mots de la tribu sont mis entre guillemets. L'exemple de Socrate, enfin, peut aider à cerner la position de l'analyste par rapport aux idéaux de la société. Socrate était quelqu'un qui déambulait dans sa ville, Athènes. On ne le montre pas chez lui. Enfin, on dit d'ailleurs qu'il fuyait sa femme. Et il avait plutôt du goût pour les garçons. Bon, alors il était errant, invité, s'invitant chez les uns, chez les autres. Et à Athènes, on le disait atopos, enfin de atopique. Topos, c'est le lieu, le A est privatif, Socrate, c'est le sans-lieu, l'insituable. Eh bien, le psychanalyste est quelqu'un comme ça. Quand on lui demande oui ou non, il dit oui, il dit non, il dit les deux, et puis il dit ni l'un ni l'autre. Et la psychanalyse est aussi atopique. Enfin, elle voudrait l'être. Alors, disons que l'analyste, c'est un ironiste. Socrate, par exemple, il embêtait les généraux sur le courage, en leur montrant qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Les artistes sur le beau, et ils se rendaient à la fois insupportables, mais indispensables aux uns et aux autres, en les abordant et en mettant en suspens ce à quoi ils tenaient le plus. Et ainsi, il ébranlait les maîtres mots de la cité. Alors, son élève Platon était persuadé qu'il y avait au ciel des idées un ordre qu'il s'agissait de retrouver, de contempler, à travers les impasses de la discussion, mais pour Socrate, c'est moins sûr. Et pour le psychanalyste, il n'y a pas cet ordre universel. Il s'agit simplement de savoir si vous pouvez reconstituer un ordre qui vous permette de vivre un peu mieux à votre gré. Le psychanalyste, avec sa façon de mettre des points d'interrogation, de faire la bête, est dans la position de l'ironiste. Il y a une interprétation de Freud que j'aime beaucoup, et qui est de l'ordre de l'éclair, qu'il a faite à un de ses élèves, un Américain, Putnam, qui était, je crois, un pasteur protestant, avec une haute conscience morale, enfin, un gros surmoi. Et le surmoi, plus on lui en donne, plus il en veut. C'est un gourmand. Alors Putnam, bourré de scrupules, vient trouver Freud, lui expose toutes les peccadilles qu'il avait pu commettre et qu'il tourmentait, qui étaient devenues ses obsessions. Et après l'avoir écouté se torturer devant lui, Freud l'a renvoyé en lui disant « Bon, au fond, vous êtes un criminel ». Et c'était en quelque sorte la conclusion, le point de capiton, le point d'arrêt de tout ce qu'avait bavassé Putnam. Freud avait tiré la conclusion logique de sa plainte, et cela a sans doute amené ce Putnam à revoir ses positions. Freud lui a pas dit « tout ça n'est pas grave, vous êtes un type épatant, vous faites pas de mouron ». D'une certaine façon, au contraire, Freud a fait de la surenchère. En lui disant, au fond, vous êtes un criminel, c'est équivalent à lui avoir dit, veux-tu vraiment dire ce que tu dis là? Et aussi, tu es un criminel, et puis après, ça ne lui fait ni chaud ni froid, Freud. En plus, dans le contexte de l'analyse, ça n'était pas une affirmation. Ça reste en suspens. C'est à Putnam, ensuite, de se situer par rapport à ce qu'il a dit. Et de dire si, oui ou non, il estime que ses travers, ses petits péchés font de lui un criminel. Quand il n'y a pas de jeu entre le signifiant et le signifié, quand il n'y a pas un espace de jeu entre le son et le sens, c'est très déprimant. On voit arriver des sujets déprimés parce qu'ils sont écrasés par des significations énormes de culpabilité. Et en effet, par l'analyse, on peut y substituer un espace ludique, le jeu du signifiant. Une interprétation, ça peut être simplement de dire, à un moment donné, c'est ça. Et dans le flottement général du signifié par rapport au signifiant, dans le malentendu généralisé, un « c'est ça » a pour effet d'attraper ensemble, de coudre le signifiant et le signifié, et ça a une fonction d'interprétation. Alors ça n'est pas une explication, ce n'est pas un commentaire, ce n'est pas une construction, ce n'est pas un savoir. Dans l'analyse, l'analyste ne se sert pas de la parole pour communiquer de l'information, comme on dit. Les bactéries échangent entre elles de l'information. Elles communiquent, c'est ce qu'on nous explique. Elles se communiquent des informations. Par exemple, il y a des bactéries luminescentes. Alors, pour savoir à quel moment elles vont faire luire l'œil du calamar, Elles se communiquent des informations entre elles. Elles ne commencent à lancer leur lumière que quand elles sont assez nombreuses. Alors on appelle ça de la communication. Et on peut même appeler ça du savoir. C'est le savoir des bactéries, infaillible. Ben, le problème justement, c'est qu'il n'y a jamais de malentendu entre les bactéries. C'est ce qui fait la différence avec la langue, avec le jeu du signifiant et du signifié. Et c'est ce qui fait la différence entre les bactéries et les êtres parlants, ceux qui ont à se débrouiller avec la langue. D'ailleurs, on ne peut pas exclure absolument que ça ne leur viendra pas, le malentendu, aux bactéries, avec toutes les manipulations qu'on leur fait subir. Ça, je ne sais pas. Mais le jour où il y aura du malentendu entre les bactéries, ça ira très très mal. Ce sera vraiment du récifi chez les bactéries et sans doute par suite chez nous aussi. Alors le difficile, quand l'analyste parle en analyse pour avoir des effets, le difficile c'est que tout se passe dans l'élément du malentendu, de telle sorte que les effets de l'interprétation analytique ne sont pas calculables. Vous sortez un mot au patient, vous n'avez pas l'idée du sens que ça va accrocher chez lui. Donc c'est un tir au jugé. Par exemple, quelqu'un va mal, vous l'encouragez à se reprendre en main, en lui disant vous en êtes capable, etc. Et bien il viendra peut-être la fois suivante vous dire que vous l'avez injurié, comme s'il n'était pas capable lui-même de se reprendre en main sans vos bons conseils.
Histoire de la psychanalyse par Jacques-Alain Miller. Réalisation Christine Berlamont. Demain, l'interprétation est une ponctuation.